Alors, en redescendant vers le lac, on a longé les montagnes de Naphtali à la base, une chaîne qui courait nord-sud, là. Et puis, on a fait un petit détour là pour grimper du côté de Kadesh de Naphtali. Une belle ville dans une doline et puis des térébintes somptueux. Et pour connaître un petit peu la Haute-Galilée, ça manquerait à notre itinéraire, à notre parcours. Et moi, je ne rate pas une occasion de feuilleter un peu ce livre-là qui reflète toutes les situations de la vie humaine. Ce serait dommage de ne pas profiter de ce voyage en Terre Sainte pour faire un peu comme la table des matières de tout ce qui, ces langages qui accompagnent l'existence dans toutes ces étapes, toutes ces facettes. Alors, en Haute-Galilée, tenez, il y a un livre qui ne se trouve pas dans la Bible hébraïque. C'est un magnifique roman dont le héros est originaire de la tribu de Naphtali. Est-ce qu'il y en a qui devinent parmi vous, là ? Tobit. Bravo, bravo, tu mérites un bon point. Alors, histoire de Tobit, fils de Tobiel, fils de Ananiel, fils de Adouel, fils de Gabaël, de la lignée d'Asiel, de la tribu de Naphtali. Au jour de Salmanazar, hein, tous ces rois assyriens dont on a parlé, il fut déporté de Tibet. Alors, on sait pas très bien où est Tibet, mais les coordonnées, alors, qui se trouvent au sud de Kadesh de Naphtali, à côté de nous, en Haute-Galilée, au-dessus de Hatzor, Hatzor que je vous ai montré ce matin et à côté duquel on va passer en descendant, au soleil couchant, et au nord de Shephat, c'est comme ça qu'on a en français ça fait. Donc. Alors, moi, Tobit, il est content de lui. J'ai marché selon les chemins de vérité, dans les bonnes œuvres. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères, à mes compatriotes, déportés avec moi à Ninive. Il est déporté à Ninive, au pays d'Assyrie. Alors, dans ma jeunesse, tandis que tous les gens de la tribu de Naphtali allaient se mettre à plat ventre devant le veau, vous vous rappelez, de Dan, que Jéroboam avait construit, là, moi, je courais à Jérusalem pour faire le pèlerinage, selon la bonne tradition. Je courais à Jérusalem avec les prémices des fruits, la dîme du bétail, chaque année. Et comme j'avais été fidèle à mon Dieu de tout mon cœur, le Très-Haut me donna la faveur de Salmanazar et je devins son homme d'affaires. Je voyageais. Et puis à la mort de Salmanazar, alors il y a le fameux Sennacherib, vous vous rappelez, celui qui a échoué devant Jérusalem. Alors quand Sennacherib, après son échec, revient à Ninive, hein, il y a des pogroms contre les Juifs. Et il est victime de cela. Mais il y a encore un changement de pouvoir, et puis il revint chez lui, sa femme lui est rendue, et puis on célèbre la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on fait le jour des fêtes? Eh bien, on fait un bon dîner, on m'apporta plusieurs plats, et je dis à mon fils Tobit, il ne faut pas confondre Tobit, c'est le papa, et Tobit, hein, c'est le fiston. « Va chercher mon enfant parmi nos frères déportés à Ninive, un pauvre, qui soit de cœur fidèle, et amène-le pour partager mon repas. » Et alors, le petit Tobit là, revient en disant « Il y a un pauvre type là, qui a été lynché, il a été étranglé, jeté sur la place du marché, il y est encore. Je ne fis qu'un bond. Laissant mon repas intact, j'enlevai l'homme de la place, je le déposais dans une chambre avant le coucher du soleil, c'était interdit d'enterrer les morts. Je l'enterrai après le coucher du soleil. Je rentrai me laver, je mangeais mon pain dans le chagrin. Il se souvient des paroles des prophètes et les gens se moquent de lui. Il risque tout ça, il a déjà eu des embêtements et maintenant il recommence. Alors ce soir-là, je pris un bain et j'allais dans la cour, je m'étendis le long du mur de la cour. Comme il faisait chaud, j'avais le visage découvert. Je ne savais pas qu'il y avait au-dessus de moi des moineaux dans le mur. De la fiente me tomba dans les yeux toute chaude. Elle provoqua des taches blanches que je dus aller faire soigner chez les médecins. Plus il m'appliquait d'onguent, plus les taches me veuglaient. Et finalement, la cécité fut complète. 4 ans, je restais privé de la vue. Et on doit pourvoir à mon entretien. Et ma femme, qui s'appelait Hanna, a dû prendre du travail. Et puis un jour, elle ramène un petit chevreau. Et là, c'est pas très élégant de la part de Tobit. Enfin, il pense qu'elle a volé le chevreau. Alors, ça provoque une querelle de ménage, comme ça. Et puis le pauvre, qui, après toutes ces épreuves, sa femme lui-même le traite sévèrement, proteste. Alors il en a marre et il dit « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Alors, tenez, on va faire la connaissance ici des anges synchronisateurs. Moi, je ne crois pas aux anges. Toi qui as fait une maîtrise en théologie, tu sais qu'on ne peut pas croire à ce qui est évident. Alors les anges, c'est tellement évident que moi, ce n'est pas un objet de foi. Et il y a des anges synchronisateurs. Le vieux Tobit là est désespéré, il a une immense douleur, il dit « mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Alors à l'autre bout du monde, il y a une fille qui s'appelle Sarah, qui s'est fait insulter par les servantes. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, un roman de Mauriac là-dessus, Asmodée. Le pire des démons avait tué ses maris l'un après l'autre, avant qu'ils se soient unis à elle comme de bons époux. Et la servante de dire, c'est toi qui tues tes maris, en voilà sept déjà à qui tu as été donné, tu n'as pas eu de chance une seule fois. Si tes maris sont morts, c'est pas une raison pour nous châtier, va les rejoindre, qu'on ne te voit plus jamais de toi, ni garçon, ni fille. Alors la pauvre, elle fait aussi une crise de dépression noire, et comme le vieux Tobit, elle dit, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Alors, écoutez bien les anges synchronisateurs ici, chapitre 3, verset 16. Et cette fois-ci, leur prière à l'un et à l'autre, en même temps, fut agréée devant la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobit pour qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Et il devait donner Sarah, fille de Raguel, en épouse à Tobi, fils de Tobit, et la dégager d'Asmodée, le pire des démons. Alors regardez bien la synchronisation. À ce moment-là, Tobit rentrait de la cour dans la maison, et Sarah, fille de Raguel, de son côté, était en train de descendre de la chambre. Alors après ça, le vieux Tobit se rend compte qu'il a laissé de l'argent là, que les frontières se rouvrent, et alors il envoie son garçon sur les routes pour récupérer l'argent qu'il a laissé en dépôt, l'argent qui était, les circonstances politiques le rendaient inaccessible jusque-là. Alors le Tobit est jeune, alors on cherche un compagnon de route, et comme par hasard, il tombe sur l'ange Raphaël, qui veut dire Dieu prend soin. Alors sur la route, il prend soin de lui, en particulier il y a un poisson là, il se lave les pieds, il veut se baigner, puis voilà qu'un énorme poisson l'entraîne dans l'eau. Alors l'ange lui dit comment l'attraper, et puis il lui dit aussi de prendre le foie qui a des propriétés thérapeutiques, et que ça servira, comme on va voir par la suite. Bon, tenez, je passe tout de suite à la nuit de noces, là. Ça c'est vraiment le suspense, c'est du Hitchcock. Ouais, écoutez ça. Alors évidemment, Toby le jeune et puis Sarah se rencontrent, vous direz les avatars du récit. Et chapitre 8, quand on eut fini de boire et de manger, on parla d'aller se coucher. Et l'on conduisit le jeune homme depuis la salle du repas jusque dans la chambre. Alors Toby se souvint des conseils de Raphaël, il prit son sac et en tira le cœur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. Cependant, les parents étaient sortis en refermant la porte. Toby se leva du lit et dit à Sarah, « Debout, il faut prier tous les deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. » Elle se leva et se mirent à prier pour obtenir d'être protégée. « Tu es béni, Dieu de notre Père, dans tous les siècles des siècles, te bénissent les cieux et toutes les créatures. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui naître semblable à lui. » Et alors, il fait une belle prière, puis ensuite, il se couche pour la nuit. Or, Raguel se leva. Il appela les serviteurs et ils vinrent l'aider à creuser une tombe. Il avait pensé, pourvu qu'il ne meure pas, nous serions couverts de ridicule et de honte. Une fois la fosse achevée, Raguel revint à la maison, il appela sa femme et lui dit, « Si tu envoyais une servante dans la chambre, voir si Toby est en vie, parce que s'il est mort, on l'enterrait sans que personne n'en sache rien. » On avertit la servante, on alluma la lampe, on ouvrit la porte et la servante entra. Elle les trouva dormant tous deux d'un profond sommeil. Elle ressortit et leur dit tout bas, il n'est pas mort, tout va bien. Oui, c'est une occasion de plus de voir l'importance de l'action de grâce. Bon, on a vu ça dans le désert, là. Bon, le bon usage des créatures dans l'action de grâce et le partage. S'il y a un mot, le mot partage, bien, c'est bien l'union des époux. Et alors, on ne fait pas l'amour n'importe comment. Hein. Et faire l'amour sans rendre grâce, eh bien, vraiment, c'est un non-sens. Si vous aviez un petit peu l'hébreu, là. Bon, en hébreu, homme se dit ish et femme se dit isha. Qu'est-ce qui, au plan des lettres de l'alphabet, distingue ish de isha? C'est la lettre I, si vous voulez, en français, et puis la lettre H. Et IH, Yah, c'est Yahvé, c'est Dieu. Eh bien, si vous enlevez Dieu de Ish et Isha, qu'est-ce qui reste? Esh, et Esh, ça veut dire le feu. Il n'y a plus que du feu. De l'importance de l'action de grâce dans le partage. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sermons, mais j'en ai subi tellement. Moi, je ne peux plus, je suis devenu réfractaire, même quand ils sont beaux. Et alors, à la fin, Raphaël se révèle. Et au chapitre 12, la verset 12, « Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. De même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, je t'ai envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Ils se prosternèrent remplis d'effroi. Ne craignez pas, la paix soit avec vous, bénissez le Seigneur à jamais. Quant à moi, pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours, qu'il faut chanter. Vous avez cru me voir manger. Ce n'était qu'une apparence. Vous marquez en général dans l'Ancien Testament, mettons à part les visiteurs de Mambrai, quand un personnage céleste intervient dans la sphère d'ici-bas, il ne mange pas. Et tout à l'heure, on va terminer la journée, le récit de Jésus ressuscité qui au bord du lac apparaît. Et avant d'engager le dialogue, il dit « Venez déjeuner » et lui-même fait la cuisine sur un feu de braise. Et Saint Luc, là, insiste sur le fait que après sa résurrection, il mange. Nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ça fait partie du kérigme apostolique. Voilà pour ce livre de Tobie. Ça aurait été dommage de ne pas le feuilleter en passant en Haute-Galilée.